comme les transporteurs professionnels, assurez vos marchandises chez Suno Assurance, présente dans plus de 14 pays d'Afrique. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. 9 mois et demi d'épidémie, plus d'un millier de morts confirmés d'après les chiffres officiels. L'épidémie d'Ebola s'est installée dans la durée dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette 10e flambée recensée dans le pays d'Afrique centrale concerne la zone frontalière de l'Ouganda, l'Ituri et principalement la province du Nord Kivu, en particulier aujourd'hui la zone de Butembo. Ebola, maladie infectieuse dont nous allons aborder les grandes caractéristiques bien sûr au cours de cette émission, virus, symptômes, mesures pour limiter la contagion, prise en charge, vaccination. À chacune des flambées, le contexte local revêt une importance de premier plan pour l'efficacité de la riposte. Et les acteurs de terrain le constatent depuis l'apparition des premiers cas dans cette zone de la RDC. La réponse sanitaire est freinée par de multiples facteurs. La présence de groupes armés qui favorisent les déplacements de population dans une zone marquée ces derniers mois par d'intenses tensions politiques, après notamment le report des élections. Un contexte global de perte de confiance qui brouille les messages, y compris en situation d'urgence sanitaire. Cette combinaison complique considérablement la tâche des équipes soignantes et des services logistiques. Médecins et agents ont été pris pour cible, des structures de soins ont été détruites. Rumeurs et attaques viennent se surajouter aux craintes légitimes exprimées par les populations, aux réserves rencontrées à chaque flambée d'Ebola, en particulier le rejet des procédures d'enterrement sécurisées et plus généralement le traitement du corps des défunts préconisé pour limiter la transmission. Des facteurs régionaux complexes et d'ailleurs un bien antérieur à cette crise sanitaire font aujourd'hui que l'actuelle épidémie est la deuxième plus grave jamais connue, deuxième depuis celle qui avait provoqué plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016. Alors pour cet état des lieux de l'épidémie de maladie à virus Ebola dans l'est de la RDC, avec nous en studio le docteur Alain Epelboin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin anthropologue au CNRS, consultant pour l'Organisation mondiale de la santé. En ligne de Bordeaux, on retrouve le professeur Denis Malvy. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Bordeaux, expert international dans la gestion de la crise sur Ebola. On va retrouver tout à l'heure en ligne du Nord Kivu Alain Jean, coordonnateur d'urgence de la réponse à Ebola pour l'ONG Alima. Il se trouve dans la localité de Katwa, c'est près de Butembo. Et puis pour aborder ce contexte propre à cette région de la RDC, on va retrouver en ligne des États-Unis Jason Stearns, directeur du groupe d'études sur le Congo à l'Université de New York. En fin d'émission, on retrouvera le nouveau ministre de la Santé du Mali, Michel Sidibé. Michel Sidibé qui rejoint le gouvernement à Bamako après plus de 10 années passées au poste de directeur exécutif de l'ONU SIDA. Nous lui demanderons quelles sont ses priorités, quels sont ses projets pour la santé malienne.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Alain Epelboin, vous scrutez, vous suivez semaine après semaine l'évolution de cette épidémie qui s'est donc déclarée le 1er août dernier, 10e flambée d'Ebola pour la RDC. Le cap des 1000 morts a été franchi depuis le mois de mai. Je donne ce chiffre, même si on est très prudent en matière de bilan, parce que c'est pas du tout évident de comptabiliser les causes réelles de mortalité dans cette région. Pour le directeur du programme pour les urgences de l'OMS, docteur Epelboin, il dit que nous sommes face à un scénario de transmission continue et intense. Comment est-ce que vous réagissez à cette déclaration un peu sur la tendance? Il y a eu l'annonce dans la région, l'inquiétude, une forme, on va dire, de contrôle et puis un retour des contaminations, c'est ce que l'on observe?
Les épidémies précédentes qui avaient lieu en RDC étaient dans des zones enclavées avec une route qui drainait l'ensemble de la population vers une sous-préfecture elle-même enclavée. Et donc il y avait à la fois une efficacité de la réponse et puis il y avait une auto-extinction. En Guinée, on a vu au contraire que c'est parti dans tous les coins parce qu'on avait des routes internationales qui passaient. Et là, le problème, c'est que ça survient dans une zone d'hyperdensité d'occupation de l'espace, un milieu urbain avec des villes de 1 million d'habitants, un trafic transfrontalier, je crois que chaque jour, on contrôle 300 000, plus de 300 000 personnes.
La frontière de l'Ouganda aussi.
La frontière de l'Ouganda où ça n'arrête pas de passer. Et puis, la nouvelle donnée qui vient encore rajouter une catastrophe, c'est un état de guerre civile où, selon les analystes, on va trouver des causes différentes, mais enfin, quand même, il y a du coltran, pas dans la proximité immédiate, il y a de l'or, il y a du diamant, il y a des intérêts économiques extrêmement importants.
Des ressources minières convoitées.
Et donc, on assiste, de mon point de vue, on assiste à la première, historiquement, à la première guerre qui utilise l'arme virologique, le virus d'Ebola, pas de façon active, c'est-à-dire on la balance pas sur la population, mais on laisse faire, ce qui permet des vides de contrôle des territoires, un petit peu la politique de la terre brûlée qui avait du temps des invasions des Huns en Europe.
Mais même s'il faut être très prudent, parce qu'au niveau des responsabilités de ce qui est de l'ordre du décisionnel ou non, c'est difficile d'établir les choses, d'établir la réalité véritable des intentions des acteurs dans cette région, puisque même dans certains cas, on a du mal à simplement dire qui agit où dans cette région du Nord Kivu. On a du mal à identifier certains acteurs des tensions locales.
Tout à fait. On a à la fois, par exemple, on a les groupes d'Imaïmaï, en fait, qui sont relativement, à ma connaissance, en rapport avec une culture, des cultures, des ethnies et des micro-territoires qui sont contrôlés des sous-groupes, des clans, des lignages. Et qui s'appellent Maïmaï parce qu'en langue mantou, Maï signifie l'eau. Et donc, on retrouve une tradition qui existe depuis les conquêtes coloniales de gens qui s'opposent à des fusils ou des mitraillettes en disant que les balles vont s'écraser sur eux comme de l'eau. Donc là, on a une espèce d'émanation à la fois traditionnelle, à la fois populaire. Et puis, on a des groupes ADF qui ont l'air d'être très manipulés. Et puis, on a des brebis galeuses au sein de l'armée nationale. Et tout ça est extrêmement compliqué parce qu'à certains moments, un mouvement va être une revendication populaire et à un autre moment, ça va être un mouvement qui va être manipulé par des forces occultes qui peuvent venir de très, très, très loin au niveau international parce qu'il faut bien que tous ces produits précieux, ils sont vendus quelque part. Et il y a une flambée des prix ces dernières années. Notamment, vous avez un article dans le journal du CNRS à l'heure actuelle qui analyse très, très bien les enjeux autour de ces mineurs.
Alors, on l'a compris, hein, terrain très sensible, difficile de rendre compte aussi, d'informer. On va éviter à tout prix de tomber dans le catastrophisme. On va plus s'attacher, bien sûr, à décrire la situation sur le plan sanitaire qu'à plaquer des chiffres ou des bilans complexes à vérifier vu le contexte. Mais professeur Denis Malvy, en termes d'évolution de l'épidémie, vous aussi, vous suivez ce qui se passe depuis des mois dans cette région de l'Est de la RDC. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? J'ai cette citation du directeur du département santé de la Croix-Rouge. J'imagine qu'il prend ses précautions avant de s'exprimer. Il dit qu'on est face à un pic alarmant. Professeur Denis Malvy, votre point de vue ?
Oui, nous sommes dans un pic alarmant parce que les chaînes de transmission, pour le moment, ne sont pas repérées ni contrôlées, et donc contrôlables. Les moyens de contrôle de l'expansion, qui sont représentés par l'éducation, avec le fait que les entourages de patients symptomatiques confirmés doivent être idéalement donc repérés, surveillés, vaccinés, accompagnés. Les contacts des contacts également sont désormais dans une situation où on ne peut pas les qualifier, les accompagner de manière efficiente. Voilà, pour ce que vous avez évoqué tout à l'heure, les raisons sont malheureusement diverses et concordantes. Les déplacements de population, la violence, l'état de peur et ces mouvements de population qui rendent les équipes d'épidémiologie dans une situation très très difficile en termes de surveillance et de déploiement des moyens. Donc, néanmoins, nous avons plusieurs outils à notre disposition. La vaccination en état, elle est relativement bien acceptée. La condition, c'est qu'elle soit allouée. Si on ne peut pas l'allouer sur les contacts et les contacts des contacts des patients repérés, eh bien, on est capable de s'adapter et de déployer ces outils de manière différente, avec des stratégies dites en rideau pour, au moins, dans les zones géographiques proches des zones indemnes, les déployer pour protéger les cités de densité humaine notable, comme en particulier Goma et son ultra-périphérie.
Alors pour revenir aux informations de base, on va parler des signes, on va parler des symptômes. Est-ce que vous diriez, on en est à la 10e flambée d'Ebola pour la RDC, on l'a dit, professeur Denis Malvy, est-ce que vous diriez que dans ce cas-là, la manifestation présente, on a des symptômes particuliers ou non? C'est un tableau général classique d'Ebola?
C'est un tableau général classique d'Ebola qui est inauguré par une fièvre sévère, complétée par des troubles digestifs, des diarrhées, des vomissements. Et la personne symptomatique n'est pas orientée et prise en charge rapidement, des défaillances d'organes. On note, comme on avait pu le faire lors de l'épidémie d'Afrique de l'Ouest, certains groupes de patients qui expriment des signes hémorragiques, mais les signes hémorragiques ne sont pas constants au cours de cette présentation. C'était le cas en Afrique de l'Ouest, ça le reste aussi dans la présentation symptomatique objectivée dans le cadre de la 10e épidémie de RDC.
C'est pour ça qu'on a retiré aussi cet adjectif hémorragique de la description générale de la maladie aujourd'hui, maladie dite à virus Ebola, et non plus fièvre hémorragique comme on le disait avant un peu de façon systématique.
Nous pouvons dire les choses ainsi.
Et pour bien comprendre comment ça se passe sur le terrain, tout de suite, témoignage des auditeurs de Priorité Santé. Témoignage, alors nous les avons enregistrés parce que joindre le Nord Kivu, ce n'est pas toujours facile. Alors, auditeur qui a voulu justement témoigner, nous raconter son expérience aujourd'hui du côté de Goma, c'est Audrey. Bonjour Audrey.
Bonjour madame.
Racontez-nous exactement ce que vous avez vu, comment vous avez vécu cette riposte à Ebola.
J'étais dans une organisation non gouvernementale internationale, j'étais en train de faire les évaluations eau, hygiène et assainissement. Lorsqu'il y a un cas confirmé d'Ebola, alors on essaie de faire un ring autour d'un centre de santé de passage de ces cas confirmés. Ce que je sais, la population vraiment est réticente. La population n'accepte pas que la maladie existe. Pour eux, la population dit que la maladie a été créée. Alors, le gouvernement n'a pas assumé son rôle régalier. Et surtout qu'ils ont été exclus sur les élections, alors pour eux, c'est une maladie créée par le gouvernement. Les députés qui ont été élus récemment, il disait à la communauté que la maladie n'existait pas. Hein. La communauté veut attendre que la maladie n'existait pas. Alors, comme un leader a déjà propagé ce message, et la communauté a accepté ce message-là.
Vous avez l'impression que justement, cette désinformation, cette campagne d'intoxication, c'est quelque chose qui est dangereux pour la population?
Oui, justement, parce que en soi, la maladie existe. Alors, il suffit que soit les leaders d'opinion, les leaders religieux, les leaders coutumiers puissent s'en gérer et donner vraiment un vrai message disant que la maladie existe, pour que la communauté de Butembo soit consciente de l'existence à soi de la maladie.
Donc, ce qu'on a bien compris, Audrey, c'est qu'il y a à la fois une campagne d'intoxication qui dément la réalité de la maladie et puis aussi des groupes isolés qui peuvent bloquer l'efficacité, qui peuvent bloquer l'action de ces groupes de riposte sanitaire. Merci beaucoup. Vous étiez donc en ligne, Audrey, en ligne de Goma. Alors, un autre témoignage tout de suite dans Priorité Santé. On va rejoindre dans la ville de Bounia, Aimé. Bonjour, Aimé.
Bonjour.
Alors, Bounia en Ituri, quelle est la situation sur place? Quelle est votre expérience personnelle par rapport justement à ce virus Ebola?
Bon, essentiellement, dans la ville de Bounia, je dois dire que la population est assez sensibilisée et il y a quand même une très bonne participation de la population. Sauf qu'il y a eu au début des petits problèmes par rapport aux activités d'enterrement d'immigrés sécurisés. Où de temps à autre, il y avait des incompréhensions dans certains quartiers, comme Bankoko, mais en général, ça va.
Du côté de Butembo, on dit que la situation s'est détériorée, alors que vous, ce que vous nous dites de la situation à Bounia, c'est que cela se passe plutôt bien. Qu'est-ce que vous voyez justement comme différence entre ces deux situations? Est-ce que vous expliquez justement pourquoi, chez vous, eh bien, ça se passe plutôt bien?
À Bounia, essentiellement, je dois dire que les populations locales, les communautés locales ont quand même mieux intégré tous les conseils, toutes les sensibilisations qui sont faites en faveur de la riposte.
Est-ce que des personnes dans votre entourage direct ont été concernées par l'épidémie ou vous n'avez pas eu de cas personnels?
Non, c'est-à-dire que dans la famille proche, non. Puisque dans Bounia sur place, le nombre de cas ne dépasse pas, à ma connaissance, 5 cas. Et donc, on n'a pas encore beaucoup de cas, on n'a pas une explosion de cas comme on a connu, par exemple, où on le connaît à Butembo.
Merci beaucoup, Aimé, pour ce témoignage et très bonne journée à Bounia. On rejoint directement Butembo dans le Nord Kivu où nous sommes en ligne avec un autre auditeur. Cet auditeur qui a répondu à notre appel à témoin sur la page Facebook de Priorité Santé, c'est Pilier. Bonjour Pilier.
Bonjour. Donc j'ai mon cousin qui a été admis pour avoir été interné avec une personne décédée par le virus Ebola. Heureusement pour lui, il est sorti vivant. Il avait des céphalées et il n'avait pas Ebola. Il a été vacciné après.
Et comment vous ressentez-vous le travail qui est fait dans la communauté pour vous sensibiliser, pour faire la prévention à la maladie?
Oui, moi qui suis étudiant, par exemple, nous aurions une sensibilisation spéciale, scientifique.
Et vous voudriez être mieux informé, c'est ça?
Mieux informé pour mieux participer. Nous voulons que nous soyons admis dans le CPE, qu'on nous fasse voir comment les tests évoluent. Et ils seront encore capables d'expliquer ce qu'ils ont vu.
Et vous avez envie de l'engager, cette démarche?
Ah oui.
Bah très bien. Bah si dans les prochains jours, les prochaines semaines, vous engagez cette démarche, rappelez-nous, renvoyez-nous un message, Pilier, on vous rappellera, pour savoir justement comment vous avez pu prendre des contacts, parce qu'on n'en a pas fini demain hein, avec l'épidémie, hélas. Et donc, rappelez-nous pour savoir si vous avez justement travaillé auprès des populations, comment vous faites passer ce message d'information, ça nous intéressera.
Je vous le promets.
Eh bah, c'est très gentil, on vous souhaite une bonne journée et bon courage à Butembo. Hein. On entend cet auditeur, professeur Denis Malvy, qui est en quête d'informations. Il dit que sur place, il n'y a pas assez de transparence, hein, c'est ce qu'il nous raconte. Il voudrait voir davantage comment ça se passe, qu'on lui explique. Peut-être même lui expliquer, il disait, son cousin est allé au centre, on lui a dit qu'il n'était pas malade, il s'est fait vacciner. Justement, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux auditeurs? Quel conseil quand il y a quelqu'un dans l'entourage, quand on est directement dans la région, quel conseil pour limiter le risque de transmission?
S'agissant de la communication et de la demande de proximité qui était exprimée par cet auditeur, il y a eu des progrès. Par exemple, à la mesure du respect de la confidentialité, mais si les membres de l'entourage d'une personne qui a été admise dans un CTE, dans un centre de traitement Ebola, pour être diagnostiqué ou pour être pris en charge. La conformation de l'architecture des centres, désormais, permet un accès convivial aux familles, à l'entourage des malades, dans la mesure où, par rapport à l'épidémie d'Afrique de l'Ouest, l'accueil est organisé dans ce qu'on appelle des cubes, des chambres d'urgence biosécurisées, qui sont des petites unités mobiles, climatisées, avec des murs transparents, qui facilitent le soin de support symptomatique, et qui permettent à l'entourage et aux familles de venir saluer, de venir rencontrer, de parler aux patients si ces derniers sont dans un état évidemment compatible avec la communication. S'ils sont trop fatigués, il ne faut pas les importuner. Mais à partir du moment où ils sont en train de, c'est ce qu'on leur souhaite, de restaurer leur santé, ils peuvent être vus à travers ces murs transparents et communiquer avec les familles, avec leurs amis et leur entourage s'ils le désirent. Donc la formulation de cet auditeur, elle peut être entendue. S'il a quelqu'un de son entourage qui est frappé par la maladie, il ne lui sera pas interdit ou impossible de le retrouver, de parler avec lui et de prendre la mesure de la qualité du soin qui est administré et de la qualité de la relation que l'on est désormais en mesure d'offrir aux malades et à son entourage.
Alors, garder le contact avec les proches. L'autre partie de ma question, professeur Malvy, c'était justement quand quelqu'un dans l'entourage, ou même simplement quand on est dans cette région, qu'est-ce qu'on fait pour éviter au maximum la transmission?
Donc, on repère les contacts de cette personne et les contacts des contacts. On les surveille, on leur propose, ce qui est arrivé d'ailleurs aux parents de notre auditeur. Il n'avait pas Ebola, mais il avait eu une fièvre compatible avec la présentation. Pour le protéger à l'avenir, on l'a vacciné. Et c'est ce que l'on va proposer à l'entourage des patients qui sont confirmés et admis. Et puis en leur donnant une qualité d'information à ce sujet, en leur montrant justement les efforts que les organisations non gouvernementales essayent de faire et réalisent, malgré l'état de droit qui est chahuté, l'état de droit et d'accès à la santé qui n'est pas idéal, on l'a bien compris, dans cette malheureuse région. Et puis, il y a un autre élément, tous ne meurent pas, Dieu merci, grâce à l'orientation rapide, précoce, à l'administration des soins de support et des médicaments. Des patients atteints de la maladie vont sortir du CTE guéris. En Afrique de l'Ouest, on les appelait les survivants. Dans le Nord Kivu, on les appelle désormais les vainqueurs. Et ces vainqueurs, ils sont la plupart du temps extrêmement désireux de continuer eux-mêmes à participer à l'effort de contrôle de la maladie, en étant des relais et des communicants pour les efforts de la riposte, et aussi en continuant à travailler aux côtés des professionnels de santé, de devenir des nounous pour s'occuper des malades admis. En particulier des enfants.
Est-ce qu'on peut dire que ces personnes sont immunisées ?
On peut dire en effet que ces personnes sont immunisées. Ils sont acquis de manière naturelle une immunité de protection vis-à-vis de la maladie à virus Ebola.
Nécessité de transparence, docteur Alain Epelboin, formalisée par ces cubes à parois transparentes, parce que dans les précédentes épidémies, évidemment, les personnes avaient aussi été un petit peu choquées par l'isolement total. C'était plus la quarantaine, c'était dans certaines régions, avec ces combinaisons, une sorte d'état de guerre qui ressemblait pas mal à un film de science-fiction. On a arrêté un petit peu avec cela. Il y a autre chose qui est que les populations sont également confrontées à d'autres choses. Ce sont des problèmes ponctuels qui nuisent à la transmission, notamment en matière d'hygiène. Les populations voient aussi des choses. Il y a des informations qui vous reviennent, vous qui êtes un observateur de ce qui se passe, des informations qui vous reviennent qui disent qu'il y a des petits problèmes ponctuels qui, dans le cas d'Ebola, deviennent de gros problèmes.
Oui, il y a eu au fur et à mesure des... Moi, je suis intervenu sur Ebola depuis 2003, et à l'heure actuelle, je suis observateur, comme vous le dites, je ne suis pas consultant officiel, même si je participe à différentes commissions. Et je précise, parce que l'argent est important, non pas pour me vanter, mais je suis bénévole là-dessus, je le fais par sentiment civique. La transparence, par exemple, lors de cette épidémie, par exemple, le grand progrès, c'est effectivement ces tentes transparentes qui permettent une immédiateté des soins. Et puis, l'autre élément dont on ne parle pas aussi, c'est une qualité de médecine qui est pratiquée dans ces centres, avec où on ne fait pas simplement de la clinique, on a de la biologie, on peut suivre, et qui est des protocoles bien adaptés, et ce qui explique apparemment quand même des taux de réussite assez intéressants. En tout cas chez les personnes qui sont venues prématurément. Mais la transparence, c'est la transparence de l'information. Alors, quand cette information, et par exemple le ministère de la Santé de République démocratique du Congo, émet tous les jours un bulletin d'information extrêmement précis, et déjà, ça, il y a des éléments de transparence qui sont apparus. Mais pour moi, la transparence qui me paraît la plus importante à l'heure actuelle, et me semble-t-il, de mon poste d'observateur depuis Paris, que je ne vois pas passer sur les réseaux et sur Internet, c'est avec une caméra subjective, de rentrer avec une équipe, de voir ce qui se passe, bien évidemment, en anonymisant les gens, et qu'on voit concrètement qu'est-ce qui se passe, quand on rentre, quand on sort, qu'on puisse se placer. Et je vois des documents de vidéos d'entreprise qui célèbrent la qualité de l'entreprise, les machins, les témanois, mais on n'accompagne pas les gens sur place. Et donc, on ne sait pas ce qui se passe derrière l'iconoclaste.
Se familiariser en quelque sorte avec les images de la maladie.
Et par ailleurs,
pour
se
les
familiariser,
rendre moins mystérieux.
Moi, j'avais fait à Guéquédou, j'avais fait un film, on voyait une infirmière avec beaucoup de délicatesse nourrir un patient, on voyait la qualité de la nourriture qui venait de Gargote.
Du soin.
Du soin, de l'hospitalité. Et voilà.
donner à voir aussi pour éviter justement cette désinformation dans cette crise d'Ebola. D'ailleurs, Sophie Malibou y revient aujourd'hui dans sa chronique et dans l'émission Les Dessous de l'Infox. Mais comme on l'a souligné hein, depuis le début de l'émission, pour comprendre aussi vraiment ce qui se passe actuellement, faut tenir compte de ces dimensions qui sont loin d'être strictement sanitaires ni d'ailleurs communautaires. Et pour cela, on va rejoindre tout de suite les États-Unis. En ligne avec nous, Jason Stearns, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du groupe d'études sur le Congo à l'Université de New York, connaisseur de la situation dans cette zone orientale de la RDC. Alors, dès que l'épidémie d'Ebola s'est déclarée en août dernier, la spécificité régionale a été pointée et la réalité ne l'a pas démentie. Cette zone de l'est du Congo est déstabilisée par des violences, une situation, on peut dire, sensible, voire critique, et ce, depuis des années.
Oui, effectivement, c'est la première fois où nous avons une épidémie Ebola dans une zone de conflit. Il y a, dans la zone où l'Ebola est apparu, il y a au moins une douzaine de groupes armés qui sont actifs, ce qui rend très très difficile le déploiement, la mobilisation des humanitaires, mais aussi l'éducation de la population. On l'a vécu, on l'a vu maintenant à plusieurs reprises, il y a des centres attaqués, il y a des gens qui ont été tués par les militants, les gens, les humanitaires qui ont été tués. Donc, c'est une situation extrêmement difficile, je pense, pour cette riposte contre l'Ebola.
Alors, Jason Stern, difficile de cerner justement cette situation, parce que quand ces groupes attaquent, eh bien, on ne sait jamais vraiment, au bout du compte, qui a attaqué, avec justement une difficulté à identifier les responsabilités.
Absolument. Donc, je pense qu'il faut, et ça, c'est quelque chose que nous avons constaté, nous avec nos équipes, nous travaillons dans la zone depuis 4 ans maintenant. Dans cette zone de Beni-Boutembo, c'est un conflit extrêmement opaque, c'est-à-dire il est très difficile d'établir les responsabilités, de cerner qui est impliqué, qui est responsable. C'est une zone où l'opacité est utilisée comme un outil de violence, un outil politique. Comment est-ce qu'on peut répondre à la violence? Comment est-ce qu'on peut prévenir, empêcher la violence, traiter la violence, si on ne sait pas exactement qui est impliqué?
Comprendre la situation pour essayer de la régler, avec en plus des violences hein, dénoncées par 18 ONG il y a 2 semaines maintenant, Jason Stern, c'est dizaines de milliers de personnes déplacées. C'est un autre élément clé de cette problématique régionale.
Absolument. Donc, comment traiter une épidémie Ebola pendant que les gens qu'on est en train de vacciner sont en train de bouger, beaucoup bouger, donc ils sont en train de fuir la violence. Donc, ça complique encore davantage. C'est un endroit extrêmement militarisé. Donc, il y a des groupes armés qui sont sur place, qui sont facilement faciles à mobiliser pour quiconque veut les mobiliser. Alors, il y a des gens qui profitent justement de cette instabilité. C'est une région qui est extrêmement pauvre, où on vient d'injecter des dizaines, si ce n'est pas des centaines de millions de dollars pour traiter cette crise Ebola. Et ça va créer des intérêts. Et je pense, et d'après nos recherches, il y a des acteurs sur place qui sont en train de bénéficier du riposte Ebola et qui n'aimeraient pas que ce riposte cesse.
Et un élément qu'on ne peut pas passer sous silence, évidemment, hein, Jason Stearns, c'est le contexte politique. Il y a eu les élections repoussées, reporté avec une réaction de la population à la clé et un véritable sentiment de défiance.
Oui, et pas seulement repoussé. Donc, les élections ont eu lieu en décembre de l'année passée, partout ailleurs, presque en République démocratique du Congo, à part cette région de Beni-Boutembo, où on a dit non, à cause de la crise Ebola, on va repousser ces élections, pas tenir les élections.
Et beaucoup de gens ont considéré que cette explication, c'était un faux prétexte.
Il est difficile de savoir exactement, mais oui, il faut constater que la région autour de Beni-Boutembo est une région qui est très proche à l'opposition. Et effectivement, quand finalement la vote a eu lieu, quelques mois plus tard, les gens ont voté pour la plupart pour l'opposition. Donc pour Martin Fayulu, celui qui se dit maintenant le vainqueur des élections, mais qui n'a pas été proclamé ainsi. Donc les gens se sentent victimes à la fois d'une crise humanitaire, sécuritaire et politique dans cette région.
Merci infiniment hein, Jason Stearns pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes le directeur du groupe d'études sur le Congo à l'Université de New York. On retrouve nos invités, professeur Denis Malvy en ligne de Bordeaux dans les studios de France Bleu Gironde, docteur Alain Eppelboin ici avec nous. Docteur Eppelboin, sans sous-estimer une certaine résistance légitime, parce que organiser une riposte à une épidémie comme Ebola, ça bouleverse toutes les habitudes, ça bouleverse le paysage, il y a même une forme de brutalité, on va dire, intrinsèque qui est comprise dans la chose, puisqu'il y a des morts, il y a des mesures sanitaires, des mesures d'urgence. L'urgence et la mort, ça ne va pas très bien ensemble. Oui, le respect, le rapport humain par rapport à ce deuil, c'est quelque chose de très complexe, de très particulier.
L'urgence écrase très facilement l'humanisation. Et là, par exemple, j'ai deux exemples qui ont été donnés par une association qui s'appelle le Parapluie du Citoyen, où ils disent que dans le cimetière central de Boutembo, parce que les gens ils ne veulent plus enterrer dans la périphérie parce que c'est trop dangereux, le cimetière est saturé. Et de donc, quand on creuse des tombes, on déterre des os, des ossements. Et au lieu de les traiter avec respect, de les réenterrer, on les laisse exposer. Et puis, bon, moi je n'ai pas été vérifier les informations, mais a priori ça paraît fiable. Et puis là aussi, on n'est pas soigneux, on laisse des gants, on laisse du matériel. Et du coup, les gamins qui viennent garder des chèvres dans le cimetière, les ramènent dans le pays. Ce sont des violences extrêmes. Et puis une troisième chose, quand il y a me disent ces informateurs, ils disent que au lieu d'avoir la coutume qui est de transporter le cercueil dans un véhicule, quand il y a plusieurs cercueils, comme au moment où il y a eu des gros massacres, on en met 5-6 dans le même véhicule. Par contre, ils me disent aussi qu'un certain nombre de règles d'humanisation sont faites, c'est-à-dire que contrairement à ce qui se passait dans d'autres épidémies, les véhicules circulent doucement, avec des warnings, avec des feuillages de deuil à l'avant. Les bouteilles sont toujours à moitié pleines, à moitié vides. Mais ça ne suffit pas. Et là, je reprends ce que dit mon ami Julien Anoko, qui est anthropologue, qui intervient pour l'OMS. Enfin, nous disons plus exactement, c'est à quel point l'attention à des toutes petites choses, un sourire, je reviens sur des choses bébêtes, mais une salutation correcte, commencer par présenter ses condoléances, une attention à l'autre, ne pas commencer à tenir un discours didactique, mais écouter le savoir des gens avant d'intervenir. Ce sont toutes ces petites choses, entre guillemets, qui font la différence.
Mais c'est ce qu'on appelle des rituels, c'est essentiel, c'est absolument essentiel, surtout dans des périodes compliquées où la vie des personnes est en jeu.
Alors, l'anthropologue vous dirait qu'en fait, il faut analyser la grammaire rituelle, à quel moment on fait les ablutions, à quel moment on fait les prières, et il faut faire un mix entre les règles de protection contre le virus microbiologique, et effectivement, ces temps rituels qui sont extrêmement importants pour que les gens aient la possibilité d'amorcer leur travail de deuil.
Professeur Denis Malvy, tout à l'heure, assez rapidement, vous avez abordé la question de la vaccination. J'aimerais qu'on y revienne à présent. L'OMS a demandé il y a 10 jours que la campagne soit amplifiée. On compte près de 110 000 personnes vaccinées. Alors aujourd'hui, qui sont les personnes éligibles à ce vaccin ?
Alors, en plus des contacts et des contacts des contacts, dont on a déjà beaucoup parlé, Il y a évidemment les professionnels de santé, évidemment aussi les professionnels de santé au sens le plus large, c'est-à-dire toutes les personnes qui interviennent dans l'accompagnement des patients et de leurs familles, les brancardiers, les chauffeurs, et également toute la périphérie de la construction du soin qui tente d'intégrer les tradis praticiens. Et les recours de guérissage qu'il faut tenter d'intégrer le mieux possible dans la guerre contre les rumeurs et les résistances à l'orientation des malades vers les centres de traitement.
En agissant donc au cœur de la communauté. Je vous propose tout de suite de nous rendre...
Également, oui. Et l'autre point, c'est la prochaine prospective vaccinale. C'est avec... un second vaccin, cette fois-ci, de pratiquer ce qu'on appelle un rideau, c'est-à-dire de protéger les grandes agglomérations comme Goma, qui n'ont pas été atteintes par la maladie, par l'épidémie, en faisant de la vaccination géographique en masse, indépendamment du suivi des chaînes de transmission.
Ça, ce sera dans un deuxième temps. Donc, on va se rendre à nouveau sur le terrain pour un autre regard sur cette riposte en ligne de la localité de Katwas, à une dizaine de kilomètres seulement de Boutembo. À l'est de Boutembo, on retrouve André Jung. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordonnateur d'urgence de la réponse Ebola pour l'ONG Alima. André Jung, quelle est la situation aujourd'hui dans la zone où vous vous trouvez ?
La situation s'est grandement détériorée depuis maintenant 2 à 3 mois. On a quasiment 12 zones de santé qui sont infectées. On a dépassé le nombre des 1000 décès. Donc, c'est quelque chose de très difficile dans le contexte et pour la population.
Dans la ville où vous trouvez Katoua, un centre de traitement a été attaqué dans la nuit de dimanche à lundi et un assaillant a été tué. Comment ça se passe justement aujourd'hui de travailler avec ce contexte très très tendu, avec ce contexte de violence?
Bon, d'abord, il faut saluer le travail des équipes de santé en général. Elles doivent répondre à énormément de challenges. Pour travailler dans ce milieu, Halima a essayé d'adopter une stratégie qui soit très intégrée au niveau des centres de santé pour permettre que déjà la population puisse suivre de plus près l'état de leurs patients. Un parent, un père, une mère ou un frère qui serait touché par la maladie doit pouvoir comment être suivi de près par la communauté, doit pouvoir être suivi aussi lorsqu'il se rend dans un centre de traitement.
André Jeanne, qu'est-ce que vous constatez au niveau de l'accueil aux intervenants de santé et même aux intervenants communautaires? Est-ce que la population est dans une situation de défiance ou ça dépend complètement des situations?
Ça dépend vraiment. Évidemment, il y a eu une grande période de défiance par rapport à la maladie. Aujourd'hui, ce qu'attendent les populations, c'est une qualité de prise en charge, que ce niveau s'élève, et donc c'est le travail des ONG d'appuyer le gouvernement pour arriver à relever cette prise en charge. Et donc du coup, les collaborations fonctionnent, mais le travail est immense.
Travail très important qui attend encore toutes ces équipes de terrain. Alors ce n'est pas la première fois, André Jeanne, que vous êtes impliqué dans un programme de riposte à virus Ebola. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez des éléments pour comparer? Est-ce que vous, ce que vous constatez sur le terrain est très différent de ce que vous avez pu voir auparavant?
Alors c'est pas, on peut pas comparer cette crise à celle de 2014, notamment en Guinée. Par contre, l'extrême fragilité du contexte et les tensions qui émergent doivent faire réfléchir les intervenants. Et c'est pour ça qu'on essaye toujours d'adapter notre riposte au contexte et aux populations. Pour nous, et j'entendais dans l'édition, les thèmes sont souvent relevés, la transparence, la communication avec la population, expliquer la maladie, ce sont des choses qui sont importantes pour réduire le degré de réticence. Et ça fonctionne, mais il faut continuer, c'est un effort permanent. Répondre à la prise en charge, c'est aussi se positionner dans la principe d'intégration dans les structures du ministère de la Santé. À l'intérieur des communautés, il y a des aires de santé. Dans ces aires de santé, il est important de pouvoir faciliter le travail des soignants et important de l'accompagner une explication au niveau de la communauté. Ces deux éléments pris ensemble permettent de réduire les problèmes et de mieux combattre le virus en tout cas.
Intervention intégrée à la communauté et transparence. Merci beaucoup pour ce témoignage, André Jeanne. Je rappelle que vous êtes coordonnateur d'urgence de la réponse à Ebola pour l'ONG Halima à Katoua, près de Boutembo.
RFI à Goma, 98 FM.
Alors, professeur Denis Malvy, épidémie qui commence à s'inscrire dans la durée. On se souvient que la précédente flambée, toujours en RDC, c'était dans la province de l'Équateur, avait été circonscrite en quelques mois. Qu'est-ce qui a marché à Mbandaka? La grande ville, hein. Il y a aussi le fleuve Congo qui traverse cette ville, donc ce n'est pas là quelque chose de complètement isolé, même si les foyers épidémiques à ce moment-là étaient dans des zones reculées et un petit peu coupées du monde. Qu'est-ce qui a marché il y a un an et qui a chopé en ce moment? On arrive à la conclusion, c'est une sorte de vision d'ensemble.
La différence avec Mbandaka est que, alors qu'on avait une grande peur parce que Mbandaka n'était pas si reculé que ça. Nous étions avec une proximité fluviale, avec des populations qui, pour des raisons de commerce et communautaires, bougeaient énormément, qui étaient transfrontalières. La grande différence, c'est qu'il n'y avait pas ces déplacements contraints par la violence et la géovolatilité politique et ce déploiement brutal de ces populations. Et peut-être aussi une leçon pour l'avenir, pour l'accueil de nos patients, et nous, tous les acteurs de terrain, nous sommes bien en phase. Nous nous projetons vers l'ultra-périphérie, dorénavant vers les centres de santé, pour être encore plus proche des communautés. Et puis aussi, il faut s'affranchir d'une vision qui soit trop entourée elle-même d'armes ou de forces armées ou de présence de forces d'allure militaire ou paramilitaire qui pourraient rebuter les populations et les malades et leurs familles. Mais évidemment, c'est entre le verre à moitié vide et à moitié plein, une cote mal taillée qu'il faut sans arrêt adapter, qui n'est pas facile, mais pour laquelle nous autres professionnels de santé et les ONG avons à veiller et tenons au niveau éthique et moral.
Et quelque chose qui est important, je voulais souligner cela en toute conclusion, docteur Alain Epelboin, c'est sécuriser les personnels soignants. On sait que les soignants sont toujours, pour ces épidémies d'Ebola, en première ligne. Il y a eu là des attaques directes contre des centres de soins, des médecins qui ont été visés directement, alors que ces personnels sont engagés justement dans la lutte contre la maladie. Surtout, c'est de dire, ces personnes sont là pour vous aider. C'est pas, si il faut s'en prendre à quelqu'un, c'est pas à ces personnes, tout simplement.
Certainement, mais il faut différencier les attaques de mercenaires, de militaires qui visent, comme le collègue camerounais ophtalmologiste qui a été tué, apparemment, on connaissait son identité, il y avait sa photo, on lui a tiré dessus tout à fait volontairement.
Un acte ciblé.
Et les réactions d'émotion, les catharsis de foule, si vous voulez. Et vous avez vu, ça va être la troisième fois que je vous parle de l'importance de circuler avec des véhicules à vitres baissées, de saluer ces petites choses qui font que quand vous sortez de votre centre, vous saluez le grand-père qui vend des cigarettes, vous saluez la grand-mère. On se connaît et c'est eux-mêmes qui vous informeront éventuellement des dangers.
Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. On l'a bien compris. Lutter contre la désinformation, plus de transparence, mettre en avant le soin et la proximité avec la communauté, c'est essentiel pour cette riposte. Merci à vous, docteur Alain Epelboin, médecin anthropologue au CNRS, et à vous, professeur Denis Malvy, pour votre éclairage, infectiologue au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Bordeaux. Merci bien sûr à nos confrères de France Bleu Gironde qui vous ont accueillis dans leur studio.
Priorité santé sur RFI.
Après plus de 10 années passées comme directeur exécutif de l'ONU SIDA, Michel Sidibé retrouve son pays d'origine, le Mali, puisqu'il vient d'être nommé ministre de la Santé malien. On vous retrouve en direct de Bamako. Michel Sidibé, bonjour.
Bonjour, Carole Paré, comment que ça va?
Ça va bien, et vous? Alors, nouveau ministre de la Santé et des Affaires Sociales. Une question générale avant d'aller davantage dans le détail. Michel Sidibé, c'est quoi vos priorités? Vous êtes fixé quelles priorités pour les mois à venir?
Vous savez, moi je voudrais d'abord dire que le fait que le président de la République ait décidé de nommer un ministre de la Santé et des Affaires Sociales comme numéro 2 du gouvernement, c'est la preuve qu'il voudrait vraiment mettre l'action sociale, l'action sanitaire au cœur de ses priorités. La priorité sera certainement d'aller vers la couverture sanitaire universelle, faire en sorte qu'on puisse fournir des services sans discrimination, qu'on puisse mettre l'équité, la justice sociale au cœur de nos priorités. Et cela, on va le faire en faisant en sorte que le patient soit au cœur de nos systèmes de santé et qu'on puisse surtout renforcer, je crois, la confiance et chercher rapidement à réconcilier le système de santé avec les malades.
Réconcilier. En s'en donnant les moyens, Michel Sidibé, est-ce que vous avez justement, vous disiez numéro 2, on va dire, du gouvernement, on connaît actuellement la situation du Mali, notamment sur le plan sécuritaire, en matière budgétaire, est-ce que la part du budget alloué aux dépenses de santé est à la hauteur, où en est le Mali?
Moi, je crois que le Mali a à peu près 5% du PIB aujourd'hui alloué au niveau de la santé. Mais ce que le président essaie de faire, c'est de ramener aussi les affaires sociales, faire en sorte qu'il y ait une synergie entre, bien sûr, la santé et la prise en charge des populations pour aller vers une couverture sanitaire qui soit plus optimale. Mais la question n'est pas tellement la dépense, mais surtout au Mali, je crois que nous allons surtout passer plus de temps à voir comment mieux s'organiser. Le système de santé, il pêche par un vrai handicap d'organisation et de gouvernance aujourd'hui. Le système n'est pas adapté ni à la demande ni à l'offre de soins. Il y a une atomisation, une fragmentation qui fait que même si les ressources sont là, le retour sur investissement n'est pas souvent là. Et particulièrement, l'accent sur la prévention sera quelque chose de fondamental qu'il faudrait entreprendre.
Les ressources sont là, mais pas forcément dispersées, disposées de façon rationnelle au niveau du territoire. Il y a bien sûr des territoires qui n'ont pas de système de santé à la hauteur en milieu rural. Il faut des moyens pour cela, Michel Sidibé. Est-ce que vous allez aller justement sur le terrain pour avoir justement un état des lieux de visu de vos propres yeux ?
Je crois que c'est une question fondamentale. J'ai commencé déjà par une visite inopinée à l'hôpital Gabriel Touré, qui est un hôpital de référence, un centre hospitalier universitaire. Et je me suis déplacé pour rencontrer les populations déplacées, justement, qui sont victimes de ces barbarie qui existe malheureusement avec les attaques sur les populations et qui se sont déplacées. Hier, vous avez constaté qu'il y a eu inondation. Donc, je voudrais dire que aujourd'hui, il faut passer de l'offre de soins et aller vers l'offre de santé, faire en sorte qu'il y ait une plus grande coordination entre les différents services, que ce soit la sécurité, que ce soit l'assainissement, l'environnement, l'agriculture, l'élevage. Il faut arriver aujourd'hui à créer au moins une plateforme qui nous permettrait d'aller vers un état des lieux de la santé avec toutes les parties prenantes. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important.
Quelque chose d'important, vous avez cité l'hôpital Gabriel Touré. Là-bas, le scanner est hors service depuis près d'un an, Michel Sidibé. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le matériel pour prendre en charge correctement les patients ?
Vous savez, moi j'ai été vraiment touché. Je suis arrivé là à 10h de la nuit et comme je disais, c'était une visite inopinée. J'ai été frappé par la résilience des acteurs de santé qui étaient là. Ils travaillaient avec un engagement personnel qui était merveilleux, mais en même temps, c'était vraiment pénible d'aller au service d'urgence et de constater qu'il n'y avait pas de scanner. Et voir que l'imagerie en général ne fonctionnait pas, la pédiatrie, c'était vraiment douloureux. Mais je vous assure que cela nécessite une réforme des ruptures, une réforme de gouvernance. Il faut nécessairement qu'on arrive à faire en sorte que cette atomisation, ce déséquilibre qui existe avec l'hôpital d'un côté, le secteur privé d'un autre, avec une absence de coordination et à travers tout ça, le risque que le patient soit oublié au passage, il faudrait qu'on ramène le patient au centre de nos préoccupations et que le patient devienne un acteur au changement. J'ai eu la chance de rencontrer déjà la plupart des syndicats et je voudrais créer au moins une plateforme de communication.
Associer tous les acteurs, très très grand chantier devant vous, Michel Sidibé. Bon courage et merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de priorité santé. Michel Sidibé, nouveau ministre de la Santé du Mali. Très bonne journée à celles et ceux qui nous écoutent à Bamako et partout dans le monde. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à l'équipe qui fabrique chaque jour votre émission. C'est tout ça, Maquée, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Lundi, nous allons parler de la crise des opiacés en France. Où en est justement la prise en charge de la douleur? Comment éviter la dépendance? Si vous avez une question, 33 84 22 75 75. On se retrouve lundi.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les transporteurs professionnels, profitez d'une assurance dans plus de 14 pays pour l'acheminement de vos marchandises. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.